Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez bien? Vous m'écoutez bien? C'est bon. Bon, je vous demande patience d'abord parce que je ne suis pas français, donc du coup, peut-être il y aura quelques mots que vous n'allez pas comprendre. Vous me faites comme ça et c'est bon, j'essaie de réexpliquer un peu. Et vous allez m'aider aussi avec le verset. À chaque fois que je dis un verset, si vous pouvez juste essayer de chercher et lire pour moi, ça va être plus simple aussi. Donc, quelqu'un d'entre vous sait peut-être, moi j'aime beaucoup, beaucoup la nourriture, j'aime beaucoup manger. Je ne sais pas si, bon, pour ceux qui me connaissent, ils le savent déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous conseille pas de m'inviter à manger parce que... mais j'aime beaucoup la nourriture, j'aime beaucoup manger. Et moi j'aime beaucoup aussi faire la cuisine. Et c'est vrai que je n'ai pas trop de temps pour la faire, mais quand je peux, je la fais. Et j'aime beaucoup. Et... peut-être vous savez aussi que je passais quelques mois aux États-Unis dernièrement, et comme vous savez là, je ne veux pas dire de bêtises parce que je sais qu'il y a des Américains ici, mais comme vous savez, aux États-Unis, là, on va dire que les habitudes alimentaires sont un peu différentes. Je ne vais pas dire mieux, je ne vais pas dire pire, mais c'est vrai que c'est différent. Et quand je suis arrivé là, j'étais dans une résidence d'étudiants, j'habitais avec 500 personnes, et j'avais vu qu'il n'y avait qu'une cuisine pour 500 personnes. Et moi, je me disais, ça va être impossible de cuisiner parce qu'on est beaucoup. Mais au fur et à mesure que le temps avançait, je voyais que les Américains, au moins les étudiants, ils faisaient qu'ils mangeaient du fast-food. Donc, ils mangeaient que des burgers, que des pizzas. Et à chaque fois que j'allais à la cuisine pour faire mes repas, et moi, j'étais toute seule. Pour une cuisine de 500 personnes, en plus, c'était assez grande. C'était parfait, quoi. Et je m'en souviens un jour que j'étais en train de faire mon repas. Et il y a eu une fille, elle venait de Kenya, je ne sais pas si vous dites Kenya en français. Donc, elle est arrivée là, elle venait avec de la viande. Et elle me dit, bon, je vois que tu fais la cuisine souvent. Moi, j'étais un peu de viande, mais je ne sais même pas comment faire la viande. Je me dis, bon, si tu veux, je peux te montrer un peu, je ne suis pas un expert, mais bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et moi, j'étais en train de faire mon repas, et je me suis dit, tiens, peut-être... ce qu'on peut faire, c'est tu mets la viande, moi je fais quelque chose et on partage, et comme ça on peut essayer de cuisiner quelque chose sympa. Et moi je me suis dit, peut-être je peux faire quelque chose typique espagnol. Et je lui ai dit, moi je veux faire quelque chose typique espagnol. Et j'avais un petit, comment dire, une canette avec des haricots blancs, une espèce de, comment, des pâtes de conserve, merci, avec des haricots blancs. Et je me suis dit, ça c'est... bon, typiquement en Espagne, on fait avec la viande. Parfois, on fait revenir des haricots blancs et on le met avec la viande. Et c'est super bon, c'est super simple. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas? J'avais les haricots blancs. Alors, j'ai commencé à faire ça. Et je voyais qu'elle me regardait un peu comme disant, typique espagnol, mais c'est tout simple, quoi. Et moi, je me disais, il faut que je fasse quelque chose. Alors, j'ai commencé. J'avais aussi des tomates et j'ai commencé à couper les tomates et j'ai mis les tomates. Le problème, c'est que Ryan, il va me dire, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai commencé à couper les tomates, mais j'ai mis les tomates dans la poêle car les haricots, ils n'étaient pas encore bien faits. Donc, avec le jus des tomates, ça a commencé à cuire. Je me suis dit, oh non, non. Alors, elle regardait bizarrement, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, j'ai dit, ouf, c'est encore simple. J'avais des œufs. Donc, j'ai pris les œufs. Je les ai mis dans la poêle. J'ai commencé à mélanger tout. Et... bon, ça avait l'air bon, hein, je veux dire, ça sentait bon. Mais, et à la fin, j'avais aussi une sauce chinoise. Et finalement, elle regardait vraiment bizarrement, elle disait, mais t'es sûr de ce que tu fais? Moi, je disais, ah, mais tu vas goûter ça, et demain, tu vas me demander de refaire ça, hein, tu verras. Mais moi, je disais, oh non, je sais pas qu'est-ce que je fais. Finalement, c'était pas si mauvais, je dois le dire. Mais le problème, c'est que ce que je voulais faire goûter à cette fille, c'était juste un repas typique espagnol tout simple, mais qui était vraiment bon. C'était les haricots, le goût des haricots blancs qui se font revenir avec la viande, c'est trop bon. Et le problème, c'est que j'ai commencé à ajouter des ingrédients et on a perdu l'essence de ce que je voulais avoir. On ne sentait même pas la saveur des haricots. Et après cet épisode plutôt drôle, il y avait une question qui venait dans ma tête et je me posais cette question, je disais... on sait que les chrétiens, en tant que chrétiens, on est appelé à être différents. La Bible, elle nous dit, par tous les évangiles, que nous devons être différents. Dans le sermon de la montagne, Jésus, il a dit qu'on doit être le sel et la lumière du monde. Et pourtant, je pense qu'on ne fait pas et on ne fait pas trop la différence dans notre société, les chrétiens aujourd'hui. Et je me disais, pourquoi ? Quel est cet ingrédient que peut-être on a, peut-être on n'a pas, mais peut-être on a, mais on a caché avec d'autres choses, on a mis des additifs. Et quel est cet ingrédient que les gens qui nous entourent ne peuvent pas voir dans notre vie ? Quelle est cette essence qu'on a perdue, les chrétiens, aujourd'hui ? Et la réponse, on la trouve partout dans les évangiles et on la trouve dans les textes que l'on va voir ce matin. C'est en Jean 13, verset 34 et 35, si quelqu'un peut lire. Jean 13, 34, 35. On voit bien que l'essence de cette chose qui va faire que les chrétiens soient différents, c'est l'amour. Jésus disait, si vous voulez vraiment que les gens sachent que vous êtes mes disciples, il faut juste que vous vous aimez les uns les autres. Et parfois, nous, en tant que chrétiens, on essaye d'ajouter des additifs. On pense qu'il faut venir à toutes les réunions à l'église, il faut prier, il faut faire tout ce que Dieu veut. Ça, il faut le faire. C'est clair qu'un bon repas, les haricots blancs, si à côté j'avais mis des bonnes choses, des petites choses à côté, ça serait bon. Mais le problème, c'est que parfois, on vient ajouter des choses et ces choses-là viennent cacher la vraie essence de ce qui est un disciple de Jésus, de ce qu'il doit avoir un disciple de Jésus, que c'est l'amour. Et dans ce texte, on voit trois caractéristiques de cet amour. Et on va voir ce matin. D'abord, le texte, il nous dit que c'est un nouvel amour, premièrement. Deuxièmement, le texte, il nous dit que c'est un amour qui doit s'expérimenter. Et troisièmement, le texte, il nous dit que c'est un amour qui doit s'exprimer. Parce que peut-être vous dites, « Bon, Oscar, tu dis que l'amour, c'est ce qui fait la différence entre les chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens. » Mais ce n'est pas vrai, parce que peut-être vous dites, « Bon, je vois autour de moi des gens qui s'aiment aussi, et ils ne sont pas forcément chrétiens. Les familles s'aiment aussi, les gens qui aiment ses amis, et il y a des organisations qui font des choses bien pour ceux qui ont plus besoin et tout. » Mais alors pourquoi tu dis que c'est une chose qui fait la différence entre les chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens? D'abord parce que Jésus, il dit que c'est un nouvel commandement. Et moi je me disais, un nouvel commandement, mais est-ce que Dieu, il avait jamais dit à son peuple qu'il devait s'aimer les uns les autres? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il avait jamais demandé ça à son peuple? Est-ce que ce n'était pas déjà un commandement? Quand moi je lisais ça, j'étais vraiment étonné. Je disais, un nouvel commandement? Mais c'est quand même bizarre, non? Parce que la Bible, elle nous parle de l'amour tout le temps. Et là, il dit un nouvel commandement. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, on ne le trouve pas. Qu'est-ce que vous pensez? On le trouve. Déjà, on va lire en Lévitique 19, 18, si quelqu'un peut lire. Lévitique 19, 18. Donc on voit bien que l'Éternel, il avait déjà parlé de l'amour. Il avait déjà donné sept commandements. Alors pourquoi Jésus, il dit un nouvel commandement? Parce que si on regarde le texte, qu'est-ce qu'il ajoute? Vous devez vous aimer les uns les autres. Comme il dit? Comme je vous aimais. Donc c'est un amour complètement différent à tout ce que l'on connaissait jusqu'à l'époque. Et c'est un amour différent à l'amour que l'on connaît aujourd'hui et que l'on voit dans notre société. C'est pour cela que c'est un amour différent. C'est pour cela que c'est un amour qui fait que les chrétiens soient différents aux autres. Mais alors, quel type d'amour? Parce que c'est ce que l'on disait, on voit que les gens, ils s'aiment aussi. Bon, si on va à la Bible, on voit que Jésus, il n'a pas aimé qu'à sa mère, à son père, à ses frères, à ses disciples. Il aimait aussi à ceux qui se moquaient de lui, même ceux qui l'ont tué. Et on est appelé à faire la même chose. Et c'est dur, hein? Mais on est appelé à faire la même chose si on veut vraiment faire la différence aujourd'hui dans notre société. Jésus, il nous dit, vous devez aimer les autres comme moi je vous ai aimé. Vous devez aimer même ceux qui essayent de vous tuer. Là, c'est dur, hein? Là, c'est pas si simple. Et ce type d'amour va faire que les gens puissent nous reconnaître comme disciples de Jésus. Et ce commandement, c'est beaucoup plus complexe que quand Jésus, il dit, aimez les prochains comme vous vous aimez à vous-même. Parce que parfois, on ne s'aime pas à soi-même. Si moi, je ne m'aime pas moi-même, je ne veux pas aimer les autres. Parce que si je dois aimer les autres comme moi-même. Mais là, Jésus, il ne dit pas comme à toi-même. Ça ne dépend pas des circonstances. Il dit, aimez les autres comme moi, je vous ai aimé. Et ça, c'est pour toujours. Donc, c'est un amour qui ne change pas. Donc, c'est facile de dire, mais c'est assez compliqué de suivre ça. Je disais que deuxièmement, il y a une deuxième caractéristique de cet amour. D'abord, on a dit que c'est un nouvel amour. Deuxièmement, on voit que c'est un amour qui s'exprime, qui s'expérimente, pardon. Parce que Jésus, il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous aimais. Mais si on n'a pas expérimenté l'amour de Jésus, comment on va faire pour aimer les autres avec son amour? Comment on va faire? Et peut-être vous pensez que, bon, moi je viens à l'église, je connais la Bible, je connais plein de versets par cœur, je viens aux études bibliques, je viens au groupe de jeunes, je viens aux réunions de prière. Alors moi, je connais l'amour de Jésus. Et ce n'est pas forcément vrai. Parce que il y a plein de monde qui vraiment connaît ce que Dieu a fait pour eux, même qui croient que Jésus il est mort pour lui, il est mort pour sa personne, pour donner la vie éternelle, mais qui n'ont pas expérimenté l'amour de Jésus. Je vous dirais, c'est bizarre, explique ça un peu parce que c'est bizarre. On voit dans la Bible, Jésus nous parle d'un texte, d'une parabole qui représente ça, qui explique ça. On la trouve en Luc 15, chapitre 15, versets 11 à 32. Et c'est la parabole de... On ne va pas la lire, je vais vous expliquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ne s'en souviennent pas. C'est la parabole du fils prodigue. En fait, c'est une parabole très connue. On parle toujours de fils petit, d'enfant plus jeune. Mais on ne parle pas trop du nez, non? C'était... Bon, je vous mets en contexte un peu. C'est une parabole qui explique l'histoire d'un père qui avait deux enfants. Et le plus jeune, un jour il est arrivé chez son père, il lui a dit, bon, moi je veux faire ma vie. Pour moi c'est comme si tu étais mort parce que je veux partir de chez moi. Et en plus je te demande la partie de l'héritage qui me correspond. Donc il a tué son père, on peut dire ça. Il a dit, donne-moi la partie qui me correspond et je veux faire ma vie. Et son père il aurait pu dire, parce que c'est étonnant ça aussi, son père il aurait pu dire, bon, si tu veux partir, pars, mais moi je te donne pas ton héritage, encore je suis toujours vivant. Mais son père, il a pris la partie qu'il allait lui donner une fois qu'il était mort. Il a donné ses parties et son fils, il est parti pour faire sa vie. Et vous savez qu'est-ce qui lui est arrivé finalement? Il a dépensé tout ce qu'il avait. Il a fait n'importe quoi. Et puis un jour, quand il s'est vu que entre les cochons, en train de manger la nourriture des cochons, qu'il n'avait rien, il s'est dit, bon, je vais rentrer chez mon père, je vais demander... Pardon, et je lui ai demandé juste d'être commandé ses serviteurs. Et bon, il est allé voir son père, et quand son père l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Il l'a pris dans ses bras, il l'a donné des habits, il a fait une fête pour lui. Et là, il y avait son frère, l'aîné. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était jaloux, il n'était pas content, parce qu'il avait été toujours là, il avait été toujours fidèle au père, il avait été toujours à côté de lui. Il faisait tout ce que son père lui disait. Il n'avait été jamais infidèle. Et il est arrivé à son père, il a dit, mais attends, moi je fais ça et tu m'as jamais fait une fête. Et là, mon frère, il vient, il a fait n'importe quoi avec ton argent et tu lui offres une fête. Et parfois, en tant que chrétien, on fait la même chose. On pense que l'amour de Dieu, il faut le gagner. C'est ce que le grand frère, il pensait. Il pensait qu'il fallait travailler pour gagner l'amour de Dieu. Et on ne sait pas que l'amour de Dieu, c'est déjà gagné, il l'a gagné à la croix. Ce n'est pas parce que je suis bon, ce n'est pas parce que je fais de bonnes choses. C'est parce qu'il a voulu que ça soit comme ça. Après, c'est vrai que c'est une conséquence. Si nous avons compris ce que Dieu a fait pour nous, ça doit se voir dans notre vie. Hein. C'est clair qu'il faut qu'on soit fidèle à Dieu et tout. Mais on ne doit pas travailler pour gagner l'amour de Dieu. Et parfois, les chrétiens, on pense ça aussi. Et on n'est pas capable d'expérimenter, ce que je disais, cette deuxième point, expérimenter le vrai amour de Dieu qui est gratuit, qu'il ne faut pas travailler pour lui, et qu'on a déjà gagné, qu'il a déjà gagné à la croix pour nous. Donc pensons à ça. Et ça arrive beaucoup, hein, on le voit dans les églises. Et ça, parfois, les personnes qui ont plus de temps à l'église, dans la foi, parfois ça arrive que ce sont ces personnes qui sont plus carrées dans ce sens-là, qui jugent les autres, non? Donc il faut faire vraiment attention et savoir identifier ça. Parce qu'on voit, il y a un texte que j'aime beaucoup, on avait étudié l'année dernière dans les groupes maison, c'est le texte de la femme qui avait adultéré, vous vous souvenez? Et parfois on aime bien être juge, comme les pharisiens avec cette histoire. Ils ont amené la femme qui avait adultéré, ils ont dit à Jésus, regarde, elle a adultéré, et qu'est-ce qu'on fait avec elle? Et qu'est-ce que Jésus l'a dit? Ouais. C'est lui qui soit livre de péché qui jette la première pierre. Alors tous sont restés un peu comme ça. Mais c'est marrant d'un côté parce que ils ont essayé de faire des juges de cette femme-là, mais aussi parce que Jésus, il aurait pu jeter la première pierre parce qu'il était livre de péché. Mais il ne l'a pas fait. Donc on voit bien que Jésus n'a pas pris ses rôles de juge. Il va juger un jour, ça il faut le dire. Mais il n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour sauver le monde. Et nous, on est ici parfois pour juger le monde. Donc pensons à ça. Et le troisième point qu'on voyait dans cette, la troisième caractéristique de cet amour qu'on voit dans ce texte, c'est que c'est un amour, pas seulement un amour nouvel, un amour différent à tout ce que l'on connaît et tout ce que l'on avait connu jusqu'à l'époque, pas seulement un amour qui doit s'expérimenter, mais c'est aussi un amour qui doit s'exprimer. Parce que la Bible, elle dit, ce texte-là, elle dit que il faut s'aimer les uns les autres pour que les gens puissent savoir qu'on est les disciples de Jésus. Mais il faut faire un acte. Il faut exprimer l'amour que Dieu il a eu pour nous. D'abord, il faut expérimenter pour pouvoir l'exprimer, mais il faut l'exprimer. Et vous connaissez, j'imagine que vous avez entendu parler de la mère morte, quelquefois. C'est une mer, on appelle endoréique. Ça veut dire qu'il y a l'eau qui rentre. On a en gros, c'est les jardins qui donnent de l'eau à la mer. Mais il n'y a pas de l'eau qui sort. Donc, si vous voulez, c'est une mer où il y a plein d'eau qui rentre, mais rien qui sort. Il y a juste un moyen pour sortir de l'eau. Pour que l'eau puisse sortir, c'est par évaporation. Donc, du coup, ça se fait qu'il y a 6,5 millions de tonnes d'eau qui rentrent, mais il n'y a rien qui sort. Et tout ce qui sort, c'est par évaporation. Donc le sel, il reste là, parce que le sel ne peut pas s'évaporer. Et ça fait que le taux de salinité de cette mer soit entre 6 et 8 fois plus élevé que la reste des mers que l'on connaît. Et ça fait, bon, à cause de cela, à cause du taux de salinité, il n'existe pas la vie dans cette mer. En hébreu, on l'appelle Yam Hamelar, ça veut dire la mer assassine. Donc c'est encore le nom encore plus parlant. Il n'y a rien qui peut habiter dans cette mer. Et comme chrétien, parfois, il nous arrive la même chose. On est capable de... On comprend que l'amour de Jésus, il est un amour différent. On a expérimenté peut-être l'amour de Jésus envers nous, mais on n'exprime rien. Il y a juste de l'amour qui rentre dans notre vie et des bénédictions de la part de Dieu. Et il n'y a rien qui sort. Et on devient des chrétiens morts aussi. Et c'est dangereux, hein, parce que Dieu, il nous donne aussi pour qu'on puisse donner aux autres. Et dans avec cette illustration, je pense qu'on comprend bien ce que Dieu nous demande. Et, aussi, on voit dans Jacques, si vous pouvez lire quelqu'un, Jacques 2, 14, verset 14 au verset 18. Il nous parle précisément de ça. Si on a foi, si on a la foi, si on a cru ce que Jésus a fait pour nous, si on croit que Dieu nous aime, mais on n'exprime rien, on est mort. Quelqu'un peut lire Jacques 2, du verset 14 au verset 18. Donc on voit bien que la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Donc je pense que c'est un bon moment pour chacun pour s'examiner, pour examiner notre vie et pour voir si vraiment on est en train d'exprimer cet amour. Quelles sont notre œuvre? Quelles sont les œuvres que l'on fait? Et ça, c'est une bonne façon de voir si vraiment on est en train d'exprimer ce que Dieu a fait pour nous, d'exprimer cet amour. Parce que aussi on voit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on entend beaucoup de chrétiens qui disent, je pense que tout le monde qui a cru en Dieu, on peut dire, Dieu a fait des choses énormes dans ma vie. On l'entend, non? C'est vrai ou vous le pensez? Ou tout le monde pense que tous les chrétiens, on peut dire que Dieu a fait des grandes choses pour nous, que vraiment il a transformé notre vie, qu'il a fait de vrais miracles. Et pourtant, c'est trop compliqué. Moi, ça m'arrivait, je pense que presque jamais, je pense que jamais, d'entendre des gens qui disent, moi, vraiment, j'ai reçu trop de bénédictions à travers des chrétiens. Nous, on reçoit de Dieu, mais les gens, ils ne disent pas, écoute ce que je reçois à travers un chrétien. Moi, ça ne m'a jamais arrivé d'entendre ça. Et c'est, alors il y a quelque chose qui se passe. S'il y a de l'eau qui rentre, mais il n'y a rien qui sort. S'il y a de l'amour qui rentre, il n'y a rien qui sort. S'il y a des bénédictions qui rentrent, mais il n'y a pas grand-chose qui sort. Alors tout s'évapore, tout se perd. Donc il faut faire attention à cela. Donc aujourd'hui, Dieu nous rappelle, juste pour conclure un peu, n'importe si jusqu'à maintenant on a mis trop de choses dans notre poêle, n'importe si on a ajouté les haricots avec les tomates, avec tout, le plus important c'est que Dieu nous donne toujours des opportunités de s'arrêter, de nous arrêter, d'examiner notre vie et de nettoyer la poêle. On peut toujours nettoyer, commencer de zéro. On peut faire un nouveau départ et commencer avec la base que c'est l'amour. Et toutes les autres choses, il faut les ajouter au moment. Mais il ne faut pas cacher la vraie essence d'un chrétien que c'est l'amour. Donc pensez à ça. Il y a un passage qu'on trouve dans les évangiles à Matthieu 10 qui parle de Jean riche, vous vous souvenez? Et c'est un passage qui, moi j'aime beaucoup, mais qui me fait un peu peur. Parce que Jésus, il parle, il a un jeune qui est riche, qui vient à Jésus, il lui dit, bon, Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et qu'est-ce que Jésus, il dit? Comment? Ouais. D'abord, il dit une autre chose. Ouais, ça, c'est la deuxième chose qu'il dit, c'est vrai. D'abord, il dit, est-ce que vous honorez vos parents? Est-ce que vous suivez tous les commandements et tout? Et le jeune, il dit, ah oui, moi je fais ça depuis que je suis tout petit. Non? Comme nous, on peut dire, oui, j'étais toujours fidèle à Dieu, ou j'essaye de faire de bonnes choses, tu vois. Alors Jésus, il dit, bon, c'est bien, il faut faire ça, mais il y a une chose qui te manque. Et alors il disait ça, ce que Nancy disait. Elle disait, il a dit à Jésus, Jésus, il a dit au jeune, tu peux vendre tout ce que tu as et donner aux autres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était triste, il est parti parce que il savait qu'il avait beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que Dieu nous dit aujourd'hui, il faut vendre tout ce que l'on a et donner tout et rester sans rien. Mais qu'est-ce qui se passe si Dieu il te demande ça? Qu'est-ce que tu ferais? Et Jésus il dit que c'est une condition pour avoir la vie éternelle. On sait que la vie éternelle, on l'a grâce au sacrifice de Jésus. Mais c'est vrai que ça devrait être une conséquence. Avoir cet amour pour les autres jusqu'au point de donner tout ce que l'on a. Est-ce qu'on a cet amour envers les autres? Si on ne l'a pas, je pense qu'il faut revenir au début. Essayer de comprendre vraiment quel a été l'amour de Jésus envers nous, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Essayer vraiment d'expérimenter ce qu'il a fait. Et puis exprimer aux autres et voir que ça a un effet, que ça a un impact sur la société. Et c'est la façon, Jésus l'a dit, et Jésus il était sage, non? Il a dit que c'était la façon dont les autres ils vont voir qu'on est les disciples de Jésus. Pas avec la façon dont on parle, pas si on est très beau ou pas très beau, ou pas, juste si on montre l'amour, cet amour que Jésus l'a montré pour nous. Je vais finir juste avec un texte, le texte qui parle de l'amour le plus connu, vous savez lequel? 1 Corinthiens 13. Et je vais demander à quelqu'un de le lire. 1 Corinthiens 13. Mais on va faire un petit exercice. 1 Corinthiens 13, du verset 4 jusqu'au verset 8. Jusqu'au verset 8, quand il dit « L'amour ne périt jamais ». Je vais demander à quelqu'un de le lire, mais on va changer le mot « amour » et on va le changer pour le mot « chrétien ». Et on va voir que ça colle parfaitement là, parce que c'est vraiment la définition d'un chrétien. c'est le même mot, on peut dire, le mot amour. On va, si quelqu'un peut le lire, jusqu'au verset 8, quand il dit « l'amour ne périt jamais », on fait ce changement de mot. Donc je vous invite vraiment à regarder aujourd'hui votre poêle, à regarder qu'est-ce que vous avez à l'intérieur et s'il faut nettoyer, à nettoyer. Demandez à Dieu qu'il nous aide vraiment à mettre dans la base l'amour et que vraiment les gens puissent connaître ce que Jésus a fait pour eux aussi à travers de cet amour que l'on va montrer. Amen.